La revue de presse internationale, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, plus blanc que blanc.
Oui, c'est l'une des opérations les plus complexes, mais aussi les plus extravagantes auxquelles notre pays a dû faire face. Voilà comment la ministre argentine de l'Intérieur a présenté hier à la presse les conclusions d'une vaste enquête portant sur un réseau de narcotrafiquants. L'histoire, raconte ce matin le journal de Buenos Aires, Clarín, a débuté il y a 14 mois et ainsi que vous allez le découvrir, elle pourrait tout aussi bien constituer la trame narrative d'une prochaine série à succès sur Netflix. Le 13 décembre 2016, l'ambassadeur russe en Argentine découvre dans une annexe de l'établissement 12 valises dont il suspecte qu'elles puissent être remplies de drogue. Avant que le scandale n'éclate, il décide de prévenir la police, laquelle une fois sur place confirme que l'ambassadeur avait eu raison de se méfier. Devant eux s'étalent 389 kilos de cocaïne d'une pureté maximale dont la valeur est estimée à 60 millions de dollars. Aussitôt, les autorités élaborent un plan pour attraper les criminels, mais il faut agir vite, il est 2 heures du matin et dans moins de 4 heures, le personnel de l'ambassade va commencer à arriver. Les enquêteurs décident alors de se rendre dans un marché de gros à l'extérieur de la capitale pour acheter 400 kilos de farine. Ils remplacent ensuite à l'identique le contenu des 360 paquets de drogue avec la nouvelle marchandise de substitution et insèrent dans les valises des dispositifs de repérage GPS. Pendant les mois qui suivent, les membres du réseau qui ne se sont rendus compte de rien vont tenter à plusieurs reprises de faire partir le chargement en vain. Et c'est finalement le gouvernement russe qui, à la faveur d'un voyage officiel en Argentine, va procurer un avion pour pouvoir surveiller la remise des valises à Moscou. Nous sommes alors le 12 décembre 2017. Une année s'est écoulée. 5 personnes seront arrêtées, dont un ancien fonctionnaire de l'ambassade de Russie en Argentine et un policier de Buenos Aires, lequel fournissait les contacts pour faire passer la cargaison par les douanes. Une personne, en revanche, est toujours actuellement en fuite, probablement en Allemagne. Son nom, Monsieur K, c'est lui qui était chargé d'acheter la drogue et de l'introduire ensuite dans l'enceinte de l'ambassade. Alors en comparaison avec cette fois-ci la grande enquête en 5 volets que El Nuevo Herald vient de finir de publier, ce réseau vous apparaîtra sans doute comme un ramassis de petits joueurs. Ainsi que le relate le Courrier International, le journal hispanophone de Miami s'est lui intéressé à ces mines d'or illégales en Amérique latine qui non seulement ont détruit plus de 167 000 hectares de forêt tropicale, soit l'équivalent de 2 fois la ville de New York, mais surtout qui alimente aujourd'hui une importante filière criminelle. Ces mines sont devenues en effet l'ingrédient secret de l'alchimie des narcotrafiquants latino-américains qui gagnent des milliards de dollars en blanchissant l'argent de la cocaïne grâce à l'exportation d'or à Miami. De sorte qu'aux yeux du monde entier, ils ne sont plus des trafiquants de drogue, mais des courtiers de métal précieux. Ce filon est même devenu plus rentable que la cocaïne. On estime que ces 10 dernières années, la capitale de Floride a reçu par voie aérienne quelque 35 milliards de dollars d'or. Concrètement, les acheteurs situés aux États-Unis, banques, raffineries, bijouteries, entreprises de technologie, n'ont pas toujours un œil aguerri sur la provenance de l'or qui leur parvient. Or, les 3/4 des importations du précieux minerai proviennent d'Amérique latine et il aura finalement fallu une enquête fédérale américaine et la mise en accusation de 3 responsables d'une entreprise de Miami ayant pignon sur rue pour que les clients, souvent de grandes entreprises comme Apple ou Tiffany, se montrent à présent un peu plus sourcilleux.
Et puis, arnaque toujours et encore ce matin, Thomas, avec de nouvelles poursuites à l'encontre du tandem Manafort-Gates.
Oui, l'acte d'accusation signé hier par le procureur Robert Mueller vise donc l'ancien directeur de campagne de Trump, Paul Manafort, et son ex-associé Richard Gates. Les deux hommes sont accusés d'avoir monté un système complexe permettant de ne pas déclarer au fisc américain une grande partie de leurs revenus. Plus de 75 millions de dollars auraient notamment transité par des comptes offshore. Et dans ce processus, les deux suspects se voient reprocher d'avoir blanchi plus de 30 millions de dollars. Au total, écrit The New York Times, l'acte d'accusation détaille pas moins de 32 nouveaux chefs d'inculpation, étant entendu qu'en octobre dernier, déjà 12 chefs d'accusation avaient été retenus contre eux. Alors ces nouvelles poursuites ne concerne pas directement Donald Trump ou sa campagne, précise toujours le quotidien de New York. En revanche, elles pointent un nouveau comportement criminel et, ce faisant, elles apparaissent comme la dernière tentative du procureur Mueller pour faire pression sur Manafort et Gates afin qu'ils coopèrent à son enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine s'ils veulent éviter une longue peine de prison, sauf que pour l'heure, les deux hommes ont dit qu'ils n'avaient rien à offrir au procureur et ni avoir commis des actes répréhensibles.
Enfin, quand Marion Maréchal Le Pen s'invite chez les conservateurs américains.
Et sa présence hier au grand rout annuel des Républicains a été très remarquée, raconte ce matin Le Temps. Elle a pris la parole pendant près de 10 minutes, intervenant juste après Mike Pence, le vice-président des États-Unis, une place de choix donc, et par sa jeunesse et sa modernité, écrit la correspondante du journal, Marion Maréchal Le Pen a visiblement séduit les conservateurs américains. Et pourtant, annoncé au dernier moment, sa venue avait déclenché une petite polémique. Plusieurs membres de la vieille garde du parti ayant fait savoir, rapporte The Washington Post, qu'ils n'étaient pas désireux de s'associer à une formation politique liée aux sombres vestiges du fascisme européen. Un glissement idéologique que confirme d'ailleurs la liste des invités, parmi lesquels on trouve également le très controversé shérif David Clark, qui n'a pas hésité à comparer Barack Obama à Adolf Hitler, ou bien encore Sébastien Gorka, un ex-conseiller de Trump connu pour avoir des liens avec un groupe néo-nazi hongrois. Alors du côté de Washington, il se murmure que Marion Maréchal Le Pen a été invitée par Sarah Palin et Steve Bannon, qu'on prenait une incarnation à la fois de la droite dure américaine et du courant des suprémacistes blancs, ou quand le parti républicain, conclut The Washington Post, se transforme en extrême droite française.
Merci beaucoup Thomas Cluzel. Et si vous êtes comme moi, que vous ne connaissez rien au sport, ce qui suit est pour vous les Jeux Olympiques de l'argent à la géopolitique. L'illustrissime Jacques Vendroux du service des sports de Radio France sera notre invité dans quelques instants et il vous fera part de ses lumières sur tous ces sujets. Il est 7h30 sur France Culture.